Merci encore, Pasteur Maurice, pour l'invitation, pour le privilège d'être ici. Je me souviens, en 2013, j'étais venu et Pasteur Maurice, Frère Maurice, me parlait d'un projet de télévision. En disant, on va construire un bâtiment. Et je viens, le bâtiment est là. Et la télévision est là. Et bravo pour votre télévision, elle n'a pas à rougir. Et EMCI TV est fière d'être partenaire avec la bande Nathalie Télévision. Alors on arrive au message. Voici 20 ans que je te sers. Si je n'avais pas le Dieu de mon Père, tu m'aurais renvoyé à vide. Voici 20 ans que je te sers. Dans le récit de la Genèse, c'est Jacob qui dit à Laban, « Voici 20 ans que je te sers. » Mais dans la fête d'aujourd'hui, parce qu'on pense à servir Laban ici, qui servez-vous? Vous servez qui? Pendant ces 20 dernières années, frère Maurice, est-ce que vous avez servi Laban? Et donc, on a un petit décalage, et c'est bon, mais ça nous amène à nous poser la question, qui servons-nous? Est-ce que nous servons Dieu? Est-ce que nous servons un homme? Jacob, quand il sert Laban, c'est parce qu'il est en fuite. C'est parce qu'il va chez son oncle et il sert pour une femme. Il sert pour ses propres intérêts. Et que fait Jacob pour Dieu chez Laban? Pas grand-chose. Genèse 26, 13, « Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, dans cette vision avec elle, ton père, Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Jacob ne peut pas servir Dieu s'il n'est pas au bon endroit. Sa place est dans la terre que le Seigneur lui a donnée. Pour servir Dieu, il faut être au bon endroit. Dis à ton voisin, si tu n'es pas au bon endroit, tu ne peux pas servir Dieu. Il y a un pays de la promesse. Qu'est-ce que tu fais ailleurs? Si le pays de la promesse est à Matadi, va pas au Canada. Maman, c'est lui qui dit amen. Il est là, regarde tes filles. Alléluia. Pour servir Dieu, il faut être au bon endroit. Dans Genèse 31, verset 3, alors, et c'est seulement à ce moment-là, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne, retourne au pays de tes pères, dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Tu as quitté le pays de la promesse. Abraham ne voulait surtout pas que son fils quitte le pays de la promesse. Soit tu es loin, mais maintenant, retourne et reviens là où tu es censé être. Ne quitte pas le pays de la promesse. Et peut-être certains ce matin ont besoin d'entendre la voix de Dieu qui leur dit, reviens au pays de la promesse. Reviens dans la maison de Dieu. Reviens là où est ta place. Pourquoi as-tu quitté? Pourquoi es-tu allé plus loin? Pourquoi es-tu allé ailleurs? Alors que Dieu t'a fait une promesse. Alors que Dieu t'a fait une promesse de bénédiction, de grâce et de vie, et toi tu vas ailleurs, c'est pas dans le monde que tu vas trouver ces choses. Le fils prodigue est allé ailleurs. Il a trouvé, quand il est revenu, il sentait le cochon. Il a rien trouvé de bon. Mais dans la maison de son père, il y avait le bon vin. Il faut revenir à la maison si tu as quitté le pays de la promesse. Voici 20 ans que je te sers. Si je n'avais pas le Dieu de mon Père, sans Dieu, que serait la vie de Jacob? Si je n'avais pas, il met ceci ici, si je n'avais pas le Dieu de mon Père. Laban, c'est une autre affaire. Au fait, vous avez des nouvelles de Laban? Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? On l'a oublié. Jacob, on en parle aujourd'hui encore. Sans Dieu, la vie de Jacob se révise. Jésus nous dit à nous, ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas faire ta vie sans Dieu. Tu ne peux pas être un chrétien sans Christ. Tu ne peux pas vivre sans Jésus. Il est la source de la vie, le principe de la vie. Il est la vie elle-même. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Je reviens à Genèse 32, verset 9. Jacob dit, le Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Et il va y avoir une progression dans sa relation avec Dieu. Au début, c'est le Dieu de son père, il ne sait pas trop, il ne connaît pas. Jusqu'au jour où, à Bethel, Dieu lui parle, il y a un face-à-face, j'ai vu Dieu, il voit Dieu, il comprend, Dieu est là et je ne le savais pas, et il va y avoir une progression dans cette révélation. Mais pendant un certain temps, c'est le Dieu de mon père Abraham, le Dieu de mon père Isaac. Mais il ne faut pas que ce soit juste le Dieu de ton père. Et si quelqu'un dans ce lieu, Dieu c'est juste le Dieu de mon père, le Dieu du pasteur, le Dieu de tel homme de Dieu, le Dieu de mon voisin, ma voisine, ma tante, mon oncle, non, il faut que ce soit ton Dieu. Il faut que tu le connaisses. Genèse 35, c'est premier, donc on est à la fin de l'épopée. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. C'est spécial quand Dieu parle et dit tu prends un autel au Dieu qui t'est apparu. Alors que c'est lui qui parle. Et c'est un autel pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il veut faire, il veut bien noter la référence et dire à Jacob, le Dieu qui t'est apparu à Bethel ne l'oublie pas. Tu as eu une rencontre forte, quelque chose qui a marqué ta vie. Tu as fait un vœu, un engagement. Et peut-être pour contextualiser ou moderniser un petit peu ce texte-là, il y en a peut-être au milieu de nous qui ont eu un moment fort avec Dieu. Un jour où le Seigneur a touché leur cœur. Ils ont senti sa présence, ils ont fait un engagement, ils ont fait un vœu, peut-être même qu'ils se sont engagés avec le baptême. Et qu'en est-il plus tard? Et Dieu dit à Jacob, souviens-toi du Dieu qui t'est apparu. Et retourne à Bethel. Retourne au lieu où Dieu s'est révélé à toi. Ce lieu de la révélation. Et il ne faut pas dire autrefois Dieu m'a parlé. Mais aujourd'hui encore, Dieu te parle. Aujourd'hui encore, Dieu est ton Dieu. Et le verset 2, Genèse 5, 2, le verset 2 est plutôt triste puisqu'il est dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Mais qu'est-ce que font ces dieux étrangers ici? Jacob, tu as le Dieu d'Abraham, tu as le Dieu d'Isaac, le Dieu qui s'est révélé à toi à Bethel. Tu as dressé là un autel, tu as fait un vœu, tu as dit, il sera mon Dieu. Et maintenant, il y a encore dans ta maison des dieux étrangers. Et Dieu lui dit, reviens à Bethel, mais pour revenir à Bethel, tu n'emmènes pas tes dieux étrangers. Pour revenir à Bethel, tu dois te purifier. Tu dois changer de vêtements. Tu dois ôter ces choses qui n'ont pas leur place. Pour être dans la présence de Dieu, tu ne peux pas venir avec tes dieux étrangers et être sale. Tu dois te purifier et changer de vêtements. Et certains peut-être sont là à Bethel et de dire, ben là, je n'entends pas la voix de Dieu. Vous savez, je fais une parenthèse. J'avais pas prévu ça, mais je fais une petite parenthèse. Il y a une histoire un peu plus loin, dans le livre des Rois, où il y a un homme de Dieu qui est envoyé à Bethel pour prophétiser contre un autel étranger. Et ce qui me surprend, c'est que dans ce lieu, il y a un Dieu prophète. Il y a un Dieu prophète à Bethel, mais quand Dieu doit parler à Bethel, il doit envoyer un homme de Dieu d'ailleurs. Et le vieux prophète qui est là, il ne sert à rien. Il n'entend pas la voix de Dieu. Même il va tromper l'homme de Dieu. Je veux dire par là, Jacob, pour aller à Bethel et pour entendre la voix de Dieu, il doit ôter les dieux étrangers, il doit se purifier, il doit changer de vêtements, lui et sa maison. J'espère que ça parle à quelqu'un. Si tu veux voir Dieu, voir le ciel ouvert, et cet escalier, cette échelle où tu vois ça monte et ça descend, il y a une activité entre le ciel et la terre, pour voir cela, il faut ôter les dieux étrangers. Jacob dit ensuite, nous nous lèverons, on est toujours dans Genèse chapitre 35 verset 3, nous nous lèverons et nous rentrons à Bethel, là je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Et Jacob se souvient que là il avait dit, j'ai besoin de toi, et que Dieu l'a exaucé, mais 20 ans plus tard il s'en souvient. Je veux dresser un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage. Et au verset 9, Genèse 35, 9, c'est-à-dire un peu plus tard, Dieu apparut encore. Ça se multiplie. C'est pas juste Dieu apparu une fois et puis après, il n'y a plus rien. Non, ça devient quelque chose de régulier. Et il faut que ce soit régulier dans notre vie, la communion avec Dieu. Il ne faut pas que ce soit juste une fois et que ce soit le jour où Dieu m'a parlé. Mais ça doit être régulier, ça doit être chaque matin, ça doit être souvent que Dieu apparaît à Jacob. Et il est dit au verset 9, après son retour de Padan Aram, il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. On est dans Genèse 35, verset 10. Et vous qui connaissez bien l'histoire, parce que vous l'avez bien lu, vous avez préparé, ça fait une semaine qu'on est dans cette histoire-là. Dieu dit, ton nom est Jacob. Je paraphrase, hier on avait une autre traduction, je vais faire la mienne aussi. Il dit, comment ça ton nom c'est toujours Jacob? Tu t'appelles Israël? Parce que là, on est au verset 35, mais au chapitre 35, mais au chapitre 32, Dieu avait déjà changé son nom. Et là, Dieu lui dit, deux chapitres plus tard, pourquoi ton nom est toujours Jacob, alors que ton nom avait déjà changé? Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob. Il ne faut plus qu'on t'appelle Jacob le trompeur, parce que ta vie a changé. Ton nom est maintenant Israël. Souvenez-vous ce qui s'était passé au chapitre 32, le nom de Jacob avait déjà changé. Genèse 32, verset 22, il se leva la même nuit, prit ses deux femmes et ses deux servantes et ses 11 enfants, il passe le guet de Jabbok, il les prit et les fit passer au torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. On en a parlé hier soir, je ne vais pas revenir là-dessus, mais Jacob envoie femmes et enfants et troupeaux devant lui. Et il est dit au verset 24, Jacob demeura seul. Il a envoyé tout le monde et il reste tout seul. Et au verset, alors qu'il est seul, verset 24, Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme mystérieux. Jacob ne sait pas qui est cet homme-là. Il n'a aucune idée. Jacob est resté en arrière parce qu'il avait peur de se battre contre son frère. Mais un homme vient se battre contre lui. Il a voulu éviter le combat et un homme vient se battre contre lui alors qu'il est seul. Il a envoyé les femmes et les enfants en disant, s'il y a un problème avec Ésaü, c'est eux qui vont gérer ça. Et lui, il reste derrière pour être tranquille. Mais un homme vient se battre avec lui. Un autre lutta avec lui toute la nuit. Jacob fuit le combat, mais il faut qu'il l'affronte. Et un homme vient lui dire, il faut te battre là. il faut combattre. Genèse 32, 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Je lis ça dans la traduction d'Ardi, qui est une traduction littérale quasiment du texte hébreu. Et lorsqu'il dit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob lui luttait comme il luttait avec lui. Il y a un combat toute la nuit, et l'homme ne prévaut pas sur Jacob. Notez bien, Jacob se bat, il ne voulait pas se battre avec Ésaü. Mais là, il se bat, et il se bat, et il se bat encore, et il refuse de perdre. Il refuse d'abandonner. Il refuse de laisser faire. Il aurait pu dire, pourquoi on se bat? Est-ce qu'on peut trouver un arrangement? Bon, il a envoyé tous ses... Il est seul. Il a envoyé les femmes, les enfants, mais aussi ses richesses, ses troupeaux et tout. Il n'a plus grand-chose pour négocier. Hein. Mais au verset 26, il dit, l'homme lui dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève, le jour arrive et cet homme veut garder le mystère. Et Jacob répond, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et durant ce combat, Jacob apprend. Au début, il n'a aucune idée de qui est cet homme. Mais au fur et à mesure, parce que ça prend toute la nuit, au fur et à mesure qu'il se bat, il se dit qu'il y a quelque chose de spécial. Vous savez, quand il se bat avec lui, il réalise que cet homme n'est pas là pour le tuer. Non? Il réalise qu'il y a un combat ici, mais il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de spécial. Et finalement, ici, au verset 26, on voit que Jacob comprend quelque chose, il dit, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe ici. Jacob a vu, à Bethel, des anges monter et descendre. Il sait qu'il y a du monde qui descend et qui viennent faire des affaires. Et il se dit, est-ce que lui, je l'ai vu ou pas? En tout cas, Jacob dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Et c'est une constance dans la vie de Jacob, on est dans la fin de notre récit ici, mais on voit la constance dans cette vie de Jacob, il cherche la bénédiction. Et même là, à la fin de tout ce récit, il dit encore, toi, tu peux me donner une bénédiction. Il y a une bénédiction ici, il y a quelque chose de spécial, je ne comprends pas tout, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais je réalise que tu es celui qui peut me bénir. Je ne te laisserai aller tant que tu ne m'es béni. Franchement, si nous on était à la place de Jacob, on n'aurait peut-être pas réagi comme ça. Parce que cette phrase, elle est juste après celle où il vient de se faire frapper sur la hanche. La hanche a été luxée, ça doit faire mal, ça, non? Alors, il vient de se prendre un coup, il va en avoir les séquelles, il va boiter, il a la douleur de cette hanche qui est luxée, et maintenant il dit, tu vas me bénir. Si vous, quelqu'un vous luxe la hanche, vous allez lui dire, je veux que tu me bénisses, ou vous avez déjà béni. C'est quoi cette bénédiction? Tu me fais du mal, et maintenant je demande la bénédiction. Mais il comprend qu'il y a quelque chose de plus ici, et que ça vaut la peine. Et il dira, non, 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 je ne te laisse pas partir. Et même si tu me donnes d'autres coups, je ne te laisse pas partir tant que tu ne m'es béni. Et cet homme lui dit, quel est ton nom? Et Jacob lui dit, mon nom c'est Jacob. Et il dit, non, 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 ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Jacob dit, bon, tu m'as demandé quel était mon nom, maintenant c'est lui qui pose la question, et toi, c'est quoi ton nom? Et l'homme répond, pourquoi demandes-tu mon nom? et il le bénit là. Il n'y a pas la réponse. Mais Jacob maintenant s'appelle Israël. Et on va aller avec une traduction assez simple. Israël, c'est Dieu prévôt. C'est pour ça que j'ai lu dans la Bible mardi, il ne prévalait pas dans le combat, mais Israël, c'est Dieu prévôt. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est lui qui a la première place. Prévôt, c'est lui qui passe avant. C'est ça ce que ça veut dire. Ton nom ne sera plus Jacob, celui qui trompe, mais ton nom c'est Dieu et en premier. C'est lui qui bénit, c'est lui qui prévaut, c'est lui qui passe avant, c'est lui qui ouvre les portes. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. Tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les hommes. Avec les hommes, on comprend. Quand on lit l'histoire de Jacob, tout ce qui s'est passé avec Laban, il y a eu une lutte longue avec Laban. Avec Ésaü aussi, il y a eu un combat. Il y a eu toutes sortes de difficultés, mais tu as prévalu. Et dans ce combat, même avec cet homme, et il est dit, tu as lutté avec Dieu, Israël est celui qui a prévalu. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui veut tellement la bénédiction qu'il ne lâche pas. Qui demande. Vous savez, Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Il a dit aussi, cherchez, vous trouverez. Et il a dit aussi, frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que vous avez déjà médité sur ce verset-là? On a des étapes, là. Demander, c'est facile. Le bébé, quand il a faim, il pleure, il demande et il reçoit. Même si c'est en plein milieu de la nuit, il demande, il reçoit. Et Jésus dit, si tu demandes, tu reçois. Mais il dit aussi, cherche et tu trouveras. Et vous savez, quand les enfants sont tout petits, qui demandent, ils reçoivent. Mais quand ils sont plus grands, et qu'ils demandent à manger, maman dit, cherche dans le frigo. Cherche, tu vas trouver, c'est là, prends. Elle va pas s'asseoir en disant, hé, hey, donne-moi à manger. Vas-y, prends, c'est là. Et comprenez qu'il y a demandé et vous recevrez. Mais à un moment donné, il faut chercher aussi. Et quand on grandit spirituellement, Dieu ne dit pas, hé, hey, c'est pas le petit oiseau qui ouvre le bec et puis Dieu va remplir tout le temps. Mais à un moment donné, il faut chercher. Et que tu cherches par toi-même et tu trouveras. Et Dieu va t'aider à trouver parce que c'est là. Tu trouves parce que c'est là. Tu ne vas pas trouver ce qui n'existe pas. Mais Dieu dit, c'est là, trouve-le. Vous savez, un peu comme les enfants qui disaient, où sont mes affaires? Ben, ils sont là dans ta chambre, cherche, tu vas trouver. Ça n'a pas disparu, c'est là. Et des fois, il y a des chrétiens qui ont besoin d'une bénédiction, d'une grâce, d'une faveur, et qui, elle n'a pas disparu, elle est là. Mais cherche. Ça demande un effort, oui, cherche et tu trouveras. Mais il y a aussi frappe. Et l'on t'ouvrira. Là, c'est encore plus difficile. Parce que tu es devant une porte fermée. Et devant cette porte fermée, Dieu dit, c'est pas juste tu demandes et puis ça va arriver. C'est pas juste tu cherches et puis tu vas trouver. Mais la porte est là, il y a un obstacle. Tu frappes. Et tu frappes encore. Et tu frappes encore. Et Jésus nous enseigne sur cette persévérance. En disant, un homme dans la nuit reçoit de ses amis. Et il n'a pas de pain, alors il va chez son voisin et il frappe à sa porte. Et le voisin dit, c'est trop tard là, il ne faut pas m'importuner. Et il dit pas, je m'excuse de t'avoir dérangé. Il frappe encore. Et il frappe encore. Et finalement l'autre va dire, bon, il frappe trop lui. Et il lui donne. Et Jésus dit cela pour nous enseigner sur la prière. Alors il y a la prière du nourrisson, c'est juste demander et Dieu sait que c'est un bébé. Et il va donner. Et vous avez remarqué que des fois, il y a des chrétiens qui sont dans la... qui sont chrétiens depuis plusieurs années et qui sont des fois frustrés quand ils voient les nouveaux. Parce que le nouveau chrétien, il arrive, il a demandé et il a reçu. Et puis le chrétien qui est dans l'église depuis plus longtemps dit, mais moi je demande et je ne reçois pas. Parce qu'il faut que tu cherches. Et peut-être que c'est même l'étape du dessus. Et maintenant, c'est plus je cherche et je trouve, mais je frappe. Et je frappe, et je frappe, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Je relis le verset 29 dans la Bible en français courant. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et les hommes, et tu as été plus fort. Ou dans la Torah, c'est traduit, et tu l'as emporté. Ou en anglais, dans la New International Version, c'est « and have overcome ». Tu as surmonté. Il y avait une difficulté, il y avait un obstacle, et là, notez bien que c'était Dieu qui mettait cet obstacle, pour voir jusqu'où Jacob irait. Est-ce qu'il va capituler? Est-ce qu'il va céder? Est-ce qu'il va pleurer comme le bébé en disant « mais pourquoi j'ai pas ?» Ou est-ce qu'il va persévérer, surmonter, passer au travers. Alors Jacob lui avait dit, fais-moi connaître ton nom. Et la seule réponse qu'il avait eue, c'est pourquoi est-ce que tu demandes mon nom? Mais ça, c'est au chapitre 32. Mais au chapitre 35, la réponse arrive. Au chapitre 35, verset 11, Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu se présente avec un nom. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et je regardais ça en hébreu, et je suis sûr que même si vous ne comprenez pas l'hébreu, vous allez comprendre ça, cette phrase. Voyomer lo Elohim, ani el Shaddai. Oh, Elohim. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et quand Dieu se présente comme étant le Tout-Puissant, ce n'est pas la première fois. Et là, il dit, je donnerai le pays que j'ai donné à Abraham. Et, parce que quand il s'était révélé à Abraham, dans Genèse chapitre 17, dans Genèse chapitre 17, verset 1er, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel est apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est la première fois dans toute la Bible que Dieu se présente comme le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras le père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et on comprend, avec la fin de la déclaration, pourquoi il y a cette introduction. Pourquoi Dieu se présente comme le Tout-Puissant, c'est parce qu'il est en train de dire à un vieux de 99 ans, tu vas être le père d'une famille nombreuse. Ça prend un Dieu Tout-Puissant. Ça prend un Dieu Tout-Puissant pour dire à quelqu'un de 99 ans, tu seras père d'une famille nombreuse, d'une multitude. Et on change même le nom d'Abraham, on le change en Abraham, père multitude. Et notez bien que Abraham s'appelle père d'une multitude, même s'il n'a pas d'enfant. Son nom a changé, même si le fils n'est pas là encore. Parce que Dieu a changé son nom, et la promesse est là, le contrat est là. Même si l'accomplissement n'est pas là encore, Dieu a dit et ça arrivera. Alors son nom change. Même si ce n'est pas arrivé encore, il est déjà le père d'une multitude. Dans Genèse 28, quand Isaac envoie Jacob il dit, va à Padan Aram dans la maison de Bethuel, père de ta mère, et il dit au verset 3, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Isaac sait que le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu Tout-Puissant. Il le sait non seulement parce que son père Abraham lui a dit, mais parce qu'il l'a vu. Il a vu que Dieu pouvait. Et que quand il a dit, ça arriverait. Et il dit à son fils maintenant, Isaac dit à son fils Jacob, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond, te multiplie, et que tu deviennes une multitude de peuples. Et laissez-moi vous dire, ça nécessitait dans cette affaire-là encore, la toute-puissance de Dieu. Parce que comme on l'a dit cette semaine, Isaac est en train d'envoyer Jacob loin du pays de la promesse, avec pas de ressources, et il lui dit, écoute, si c'était que pour les hommes, cette aventure ne marcherait pas. Mais parce que le Tout-Puissant est avec toi, ça va marcher. Et ça prend un Dieu Tout-Puissant pour que cette aventure aboutisse pour le mariage et qu'il revienne prendre possession du pays promis. Et je reviens au chapitre 35, et Dieu dit à Jacob maintenant, « Je suis le Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie une nation, et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je donnerai le pays que je donnais à Abraham, à Isaac, je donnerai ce pays à ta postérité après toi. » Et notez bien que dans le verset 12 ici, on est dans Genèse 35, 12, Dieu donne, mais on voit un petit décalage, puisqu'il dit au début du verset, « Je te donnerai le pays. » Et à la fin du verset, il dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et on comprend ici que donner le pays à la postérité, c'est donner le pays à Jacob. Même si techniquement, Jacob ne va pas avoir le pays, c'est le pays promis, Dieu lui a donné, mais il ne voit pas le titre de propriété encore, mais il sait que c'est chez lui. Mais c'est à la postérité, à sa descendance, qui eux vont s'installer en propriété. Si je n'avais pas le Dieu de mon père, au début, Dieu c'était juste le Dieu d'Abraham, c'était juste le Dieu d'Isaac, le Dieu de son père. Mais à la fin, ça devient le Dieu aussi de Jacob. Et dans l'Exode, quand Dieu apparaît à Moïse, Exode chapitre 3, verset 6, Dieu dit, et c'est Dieu qui atteste et témoigne de ces choses, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'est plus seulement le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, il est aussi le Dieu de Jacob. Alors, voici 20 ans que je te sers. Si je n'avais pas le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vie. Parce que le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac est avec Jacob, la conclusion n'est pas la même. Bien, et si je n'avais pas, mais parce que j'ai, ça fait toute la différence. Si je n'avais pas, je serais revenu à vide. Mais parce que j'ai, je ne rentre pas à vide. Sans Dieu, c'est à vide. Avec Dieu, c'est béni en toutes choses. Même si Jacob a travaillé fort, c'est Dieu qui l'a béni. Et à la fin de sa vie, dans Genèse 48, verset 3, à la fin de sa vie, Jacob lui-même confesse, le Tout-Puissant m'est apparu à Luz. Luz, c'est l'ancien nom de Bethel, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a béni. Maintenant, deuxième point. Avant toutes ces aventures, Jacob a appris de son père Isaac comment il faut faire pour être béni. Et son père lui a montré, pas seulement lui a enseigné, mais il a appris. Regardez Genèse chapitre 25, c'est le début, c'est le commencement. c'est la naissance de Jacob et d'Ésaü. Et c'est cette histoire, et on en a parlé durant cette semaine, du droit d'aînesse qui a été vendu pour un fleuve d'antique. Genèse chapitre 27, c'est Jacob qui se fait passer pour Ésaü afin d'être béni. Chapitre 28, 29, 30, 31, 32, c'est la fuite, c'est la rencontre à Bethel, c'est la rencontre de Rachel, c'est les mariages, c'est le travail, c'est le retour, c'est tout ça. Le frère Maurice, après de longues années à l'université, j'ai appris une chose. C'est qu'entre le chapitre 25 et le chapitre 27, il y a le chapitre 26. Mais il faut aller à l'université tout ça. Et le chapitre 26 ici n'est pas là. Nous, on aurait tendance à lire le chapitre 25 et après tout de suite aller au chapitre 27 pour avoir la suite de l'histoire. Parce que le chapitre 26, c'est comme si c'était une autre histoire, une digression, une histoire différente. Je sais bien que les théologiens ont un mot intéressant pour ce genre de choses. C'est un mot très technique, c'est sérieux ici. C'est un mot qu'on utilise en théologie, en narratologie. On dit c'est une histoire sandwich. Pas une histoire sandwich, mais sandwich. C'est la même chose avec la prononciation en anglais. Mais un sandwich ici. Et quand il y a un sandwich, il y a du pain en dessous, il y a du pain au-dessus, mais la viande, elle est au milieu. Et ce chapitre 26, c'est la viande. Alors, on va trouver dans ce chapitre 26 deux récits qui vont être une clé d'interprétation pour comment ne pas repartir à vide et être béni. Le premier des récits, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Isaac va mentir au sujet de sa femme et la fait passer pour sa sœur comme il avait fait son père Abraham en son temps. Alors n'imite pas les erreurs et les mauvaises actions de tes pères. Son père n'est pas parfait. Son grand-père n'est pas parfait. Mais il va prendre le bon et laisser le mauvais. N'imite pas les mauvaises actions de tes pères. L'auteur aux Hébreux dit, souvenez-vous, Hébreux chapitre 13, verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Voilà 20 ans. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Alors, vous pourrez certainement, et puis là, au temps de l'Épître aux Hébreux, certainement, parmi ces conducteurs, il y en a qui diraient, oui, mais il y a eu ce problème-là, un jour, où il y a eu cette affaire-là. Non, non, dis, imite leur foi. Imite le bon, car Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Alors, on cite souvent ce verset de Hébreux 13, 8, mais si on le met dans le contexte de Hébreux 13, 7, le verset qui est juste avant, quand il nous dit que Jésus-Christ est le même, c'est quand tu regardes ce qu'ont fait les pères, Jésus-Christ est le même. Et si c'est fait autrefois avec papa un tel ou papa un tel, peut s'accomplir aujourd'hui encore parce que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dans ce chapitre 26, on en a parlé cette semaine aussi, Isaac a semé, il a été béni, il a recueilli le centuple, l'Éternel l'a béni, devient riche, et il s'enrichissait de plus en plus. Et au verset 14, Genèse 26, 14, il a des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, et les Philistins lui portèrent envie. Je relis ça dans la Bible en français courant. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux d'Isaac. Et là, on a, à partir de maintenant, un autre enseignement. Genèse 26, 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent en les remplissant de poussière. Et là encore, ce verset 15 suit le verset 14, ils sont jaloux. Alors parce qu'ils sont jaloux de la bénédiction d'Isaac, parce qu'ils sont jaloux que Isaac ait autant de moutons, de chèvres et de bœufs, eh bien ils vont dire, on va mettre du sable et des pierres et de la terre dans les puits pour pas qu'il y ait à boire pour ses troupeaux. Mais quand je réfléchis, je dis, mais c'est stupide. Et puis, ils sont où? Ils sont dans leur pays. Ils sont en train de saccager leur pays parce qu'ils sont jaloux d'Isaac. Ils sont en train de détruire les puits, ils sont chez eux, ils boivent de cette eau, mais parce qu'ils ne veulent pas qu'Isaac boive de la même eau, ils disent, personne n'aura d'eau. Abraham avait creusé un puits, et eux, ils vont combler ces puits par jalousie en sabotant leur propre pays. Bon, mais il n'y a que à cette époque qu'on fait comme ça, je pense qu'aujourd'hui on fait comme ça. J'espère. Pourquoi? Verset 16, Genèse 26, 16. Abimélec dit à Isaac, va-t'en. Va-t'en de chez nous, car tu es plus puissant que nous. Et voyez, il commence à faire peur parce qu'il est trop fort, trop riche, trop puissant. Mais je pense aux Philistins. Ils ont bouché les puits, ils lui disent va-t'en, mais ils ont toujours les puits bouchés maintenant. Et Isaac est même plus là. Il y a peut-être un qui a réfléchi, qui a dit si on n'avait pas bouché les puits, on aurait de l'eau. Mais parce qu'on était jaloux, on n'a même plus d'eau maintenant. Il y a des gens qui sont. Hein. Verset 17, Isaac partit de là. Isaac ne fait pas de problème, il part. Et il va dans le camp, il campa dans la vallée de Guéra. Verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Notez bien, ça a l'air d'être une habitude chez les Philistins. Parce que après la mort d'Abraham, ils avaient ici à Guéra, déjà rempli les puits de terre qu'Abraham avait bâti. Et après, quand Isaac devient riche, là, ils vont faire la même chose. Ils ont donc saboté les puits d'Abraham après la mort. Mais Isaac, quand il arrive et qu'il voit les puits de son père, Abraham, il dit, non, le puits là, il y a peut-être de la terre dedans, il y a peut-être des cailloux dedans, mais l'eau est toujours là. L'eau est toujours là. Alors, il en a creusé à nouveau les puits d'eau qui avaient été creusés au temps de Bram. Et il leur donna les mêmes noms. Notez bien qu'il ne dit pas, moi je vais faire quelque chose de nouveau. Il dit, mon père avait fait un puits ici. Et il y avait de l'eau, comprenez, de la bénédiction, de la fraîcheur, de la vie. Et ça a été saboté, saccagé par l'adversaire, par l'ennemi. Mais il va reprendre ce que l'ennemi a détruit et il donne le même nom. Il va restaurer ce que les Philistins avaient détruit. Laissez-moi vous dire, il y a encore de l'eau dans les puits d'Abraham. Et si dans ta vie, il y avait autrefois un puits, où il y avait de l'eau, où il y avait de la fraîcheur, une communion avec Dieu, et que l'ennemi a rempli de terre, de cailloux et de sable, il y a encore de l'eau creuse. Il faut aller chercher à nouveau ce que les Philistins ont gâché. Les Philistins ont juste rempli, mais l'eau est toujours là. La source est là. Il faut chercher. Il ne faut pas juste attendre que l'eau sorte tout seul. Non. Là, il faut creuser. Là. Il faut enlever ce que les autres ont mis dedans et il faut creuser. Et il ne faut pas être quelqu'un qui dit « Ah, autrefois, on avait de l'eau aussi. » Elle est toujours là, l'eau. Il ne faut pas tomber dans cette nostalgie de dire « Ah, autrefois, le Seigneur nous bénissait. » Mais l'eau est toujours là. Alors tu dis « Oui, mais là, j'ai soif. Il y a de la terre. » Oui, mais est-ce que les Philistins ont mis de la terre, des cailloux et du sable dans ce puits, mais creuse et tu vas trouver l'eau. Va chercher les bénédictions du passé, elles sont toujours là. Jésus est le même hier et aujourd'hui. Mais Isaac ne creuse pas seulement les anciens puits. Il va creuser des nouveaux aussi. Il va restaurer les anciens, mais il va chercher des nouveaux. Verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Joie, il y a de l'eau. Mais bon, ça ne s'arrête pas là. Verset 20, les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. C'est pas chez vous ici. Comment ça c'est pas chez vous? Dieu m'a donné le pays, mais t'as pas encore les papiers. Bon. Il donna au puits le nom d'Essec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Et finalement, il laisse le puits. Et Isaac donne au nom, donne comme nom à ce puits. Alors j'ai vérifié en hébreu, Essec. Et la Septante, c'est la traduction grecque, c'est à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, on a pris le texte de l'Ancien Testament en hébreu et on l'a traduit en grec. Et eux, le mot Essec, ils l'ont traduit par Adikia. Adikia, en grec, c'est injustice. Et c'est injuste, hein? Tu creuses un puits, tu fais l'effort, tu travailles fort. T'as creusé toi-même, sous le soleil, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Tu trouves de l'eau, tu dis on est béni, le travail a porté du fruit. Et on dit non, non, ce puits-là, c'est à nous. Mais qu'est-ce que t'as fait toi, viens? Et il dit, c'est parce que t'es pas chez toi ici, mais c'est chez lui. Mais tu sais pas encore. Et puis, on veut lui prendre son puits d'une manière injuste. Et Isaac laisse. Le mot Adikia dans la vie seconde est traduit par iniquité. Quelque chose d'inique. C'est quelque chose d'injuste, de mal, parce qu'on ne respecte pas la justice et justice pacifique. Au verset 21, Genèse 26, 21, ses serviteurs creusèrent un autre puits. Ils vont faire un autre. Au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et on l'appela Sitna. En hébreu, hostilité. Ils creusent un autre puits, ils travaillent fort, ils creusent, ils trouvent de l'eau, et encore on vient lui chercher querelle. Il laisse. Verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits. Est-ce que vous auriez fait ça? Ou vous auriez arrêté en disant, on creusait des puits pour les autres, hein? Il creuse un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Il est au large. Il a un puits. Enfin. Comprenez, il y avait Abraham qui avait fait des puits, il y avait de l'eau, et les Philistins ont gâché. Mais Isaac dit, on va rechercher l'eau qui était là. Et si dans ta vie, il y avait une communion, une bénédiction, une fraîcheur, quelque chose qui était là et que d'autres ont gâché, il faut aller retrouver ce que tu as perdu. C'est vrai pour un homme, pour un couple, pour une communauté, pour une église. Ne laisse pas les Philistins mettre du sable dans le puits de la bénédiction. Et si tu creuses un puits, notez, quand tu creuses un puits, tu trouves de l'eau. Il n'y a jamais marqué, à chaque fois, il a creusé un puits et il n'a pas trouvé d'eau. Mais les Philistins, ils auraient pu creuser aussi. Ils auraient eu de l'eau. Mais Isaac a creusé. Et Dieu le bénit parce qu'il y a de l'eau là où il creuse. Et on lui dit, non, non, injustement, ce puits est à nous. On cherche des hostilités. Et la troisième fois, il dit, Dieu nous a mis au large. Verset 22. Mais, si on est attentif, au verset 23, il remonta de là à Beersheba. Il vient d'avoir un puits. Il est au large, mais il part. Et il laisse le puits. Et qu'est-ce qui se passe avec ce puits-là? Alors, si vous aviez des mauvaises idées, si vous pensez comme des Philistins, vous allez dire, hé, hey, on ne va pas leur laisser le puits, hein? On bouche, alors ça va. Mais le premier puits, quand on a dit c'est à nous, ils l'ont donné avec l'eau. Le deuxième puits, quand ils ont cherché querelle, ils ont donné avec l'eau. Et le troisième puits, ils ont profité de ce puits, ils ont été au large, ils ont pu abreuver tous les troupeaux. Et après un certain temps, ils sont partis de là pour aller à Beersheba et ils ont laissé Rehoboth. Et on le retrouve ce puits. Il faut chercher, hein, mais je cherche.
Et quand on cherche, on...
Alors, dans Genèse 30, alors je vais vous donner, on va faire un petit puzzle, hein, on pourra arriver à comprendre. Genèse 36, 9, la postérité d'Ésaü. Ésaü, père d'Édom. D'accord ? Édom, ça veut dire roux. Ésaü, c'est celui qui est roux. Donc, Ésaü, c'est la descendance, c'est Édom. Jacob, c'est Israël. Ésaü, c'est Édom. Verset 31, Genèse 36, 31. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. Donc on est là dans une chronologie où on va parler de tous les rois d'Édom, de la descendance d'Ésaü. Et au verset 37, Genèse 36, 37, Samla mourut et Saül de Rehoboth, son frère, régna à sa place. Le puits que Isaac avait creusé pour lui, qui est une bénédiction pour lui et qu'il a laissé, devient la bénédiction pour la descendance de son frère. Ta bénédiction peut être la bénédiction de ton frère. Et même si ça ne nous plaît pas, ta bénédiction peut être la bénédiction de tes ennemis. Isaac remonte, je reviens à Genèse 26, 23. Isaac remonte à Beersheba, l'Éternel lui apparaît et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains pas, je suis avec toi. » Et il n'emmène pas le puits avec lui. C'est difficile hein, d'amener un puits avec soi, mais il amène la bénédiction avec lui. Et il sait que s'il creuse, il y a de l'eau. Parce que la bénédiction de Dieu est avec lui. Et dans Genèse 26, là, il bâtit un autel, vers 26-25, et il invoque le nom de l'Éternel, et il creuse encore un puits. Et Abimelech arrive, il veut faire une alliance, parce qu'Abimelech a peur, et il dit, « Pourquoi venez-vous vers moi ?» Il répond, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. » C'est pour ça que nous avons fait un serment avec nous. Alors ils font un serment, ils font un festin, et puis ils se quittent. Et au verset 32, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Il est allé ailleurs, il a laissé le puits qu'il avait mis au large. N'aie pas peur de laisser le puits Rehoboth derrière toi quand tu dois bouger. Ne dis pas, mais non, mais moi, il y a de l'eau ici. L'Éternel m'a mis au large, pourquoi je partirais? Si Dieu te dit, il faut partir, tu pars. Et même si tu laisses Rehoboth derrière, il y aura un autre puits devant. Et Isaac trouve un autre puits. Et Jacob a appris de son père la persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Matthieu 24, 13. Matthieu 13, 13. Vous serez haïs de tous. On n'aime pas trop cette phrase-là, hein, mais bon, c'est Jésus qui le dit. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les Philistins vont boucher tes puits, mais creuse encore, persévère jusqu'à la fin. Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Romains 15, 5, l'apôtre Paul, quand il parle de Dieu, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation. Il dit pas que le Dieu du miracle, que le Dieu du surnaturel. Là, quand il parle aux Romains, il dit c'est le Dieu de la persévérance. Et c'est le Dieu de la consolation parce que vous passez des moments difficiles, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. Et il continue dans 2 Thessaloniciens 1:4, 2 Thessaloniciens 1:4. Il dit aussi, nous glorifions-nous de vous, c'est ça, dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance. L'apôtre Paul dit, je suis fier de vous. Et je me glorifie à cause de vous, parce que j'ai regardé la persévérance des Thessaloniciens. Votre persévérance et votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter, déjà à Thessalonique, l'apôtre Paul dit, vous êtes passé par des persécutions, vous êtes passé par des tribulations, mais vous avez persévéré et vous avez gardé la foi. Je suis fier de vous et je me glorifie pour cela. Dans 2 Corinthiens 4, 6, il dit, le Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Et comprenez les ténèbres ici comme étant les difficultés. Eh bien, il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il dit, on porte ce trésor dans les vases de terre afin que la grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais il continue. Nous sommes pressés de toute manière. Il y a de la pression, mais non réduit à l'extrémité. Il y a de la pression, mais on tient. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Il y a de la détresse, mais on n'est pas désespéré, parce que notre espoir est en Dieu. Persécuté, mais non abandonné. On a des adversaires, mais Dieu est avec nous. Abattu, mais non perdu. Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Voici 20 ans que je te sers. Si je n'avais pas le Dieu de mon Père, tu m'aurais renvoyé à vie. Nous savons que nous ne retournerons pas à vie quand ce sera le temps. Notez bien que c'est Dieu qui a donné le départ. Et qui dit à Jacob, c'est le temps de retourner. Ne pas retourner à vie. Le Dieu que nous servons, c'est El Shaddai, le Tout-Puissant, celui qui peut tout. Et quand on a conscience que rien n'est impossible à Dieu, que le Dieu que nous servons est le Dieu qui peut tout, et que quand le Dieu qui peut tout nous fait une promesse, il peut. Il ne faut pas dire à Jésus, si tu peux. Évidemment, il peut. Il ne faut pas venir devant lui en disant, Dieu, si tu peux quelque chose dans mon affaire, comment ça, si tu peux? Évidemment, il peut. Et quand il fait la promesse, il a le pouvoir d'accomplir cette promesse. Alors, persévère, creuse à nouveau les puits qui ont été bouchés, quel que soit le puits qui a été bouché dans ta vie, creuse à nouveau ce puits. S'il y a des querelles, s'il y a de l'injustice, creuse encore, et creuse encore, et quand tu creuses, il y a toujours de l'eau. Jamais Isaac n'a creusé et a trouvé rien. Il a toujours eu de l'eau lorsqu'il a creusé. Tu ne retourneras pas à vide. Voici 20 ans que je te sers. Si je n'avais pas le Dieu de mon Père, tu m'aurais renvoyé à vie. Amen.